par les champs et par les grès.
Des histoires, des rencontres, des débats qui nous parlent des liens entre terre et mer. Pour découvrir, pour mieux comprendre les multiples visages de l'agriculture littorale. Aujourd'hui, c'était La Patate, épisode 3, la transition.
Un agriculteur qui se serait endormi dans ce village de Bretagne en 1846 et se serait réveillé un siècle plus tard n'aurait pas été surpris en ouvrant les yeux. Autour de lui, les mêmes champs, les mêmes arbres, les mêmes bâtiments, les mêmes méthodes de travail, la même façon de vivre. Replongé dans le sommeil, en 1946, ce même agriculteur se réveillerait complètement désorienté en 1966. Découvrant un monde où les moissonneuses batteuses récoltent un hectare de céréales en trois quarts d'heure, alors qu'il lui fallait, à lui, trois jours pour faire le même travail à la faucille.
Encore un qui n'a jamais mis les pieds dans le 29. Ça date de quand, ça ?
1963, l'âge d'or du grand récit moderniste. ORTF, INRA, même combat. C'est vrai que lorsqu'on écoute cette archive, on a l'impression que la révolution agricole des années 60 s'est produite brutalement et qu'on est passé d'un coup, grâce au progrès technique, de l'archaïsme à la modernité. Ce que nous ont appris les deux premiers épisodes de notre saga de la pomme de terre de sélection, c'est que la réalité est beaucoup plus nuancée.
Rafraîchissons-nous la mémoire. La culture du plant de patate a été introduite dans le Finistère en 1922. Elle s'est ensuite développée rapidement, au point de faire du bassin de Châteaulin le premier centre de commercialisation du plant de patate en France dans les années 50 et 60. Et ouais, bonhomme.
Et pourtant, alors que cette production a fait la fortune de beaucoup, on est passé en 20 ans de plusieurs milliers de producteurs à quelques dizaines seulement aujourd'hui. Pierre Gral, notre historien préféré, a publié en 2010 le livre « Quand Châteaulin avait la patate ». Et selon lui, c'est une hémorragie accélérée qui touche à partir de 1965 le syndicat des producteurs de plants de pommes de terre de Châteaulin.
Pour donner une idée de l'évolution des planteurs, si je puis dire, en 1965, ils étaient encore plus de 1000, 1089. En 1975, donc 10 ans après, ils n'étaient plus que 327. En 1993, ils étaient 36. Et lorsque le livre est sorti, ils n'étaient plus que 6.
Comment expliquer cette évolution ? La première piste, c'est la baisse de la consommation de pommes de terre en France et l'internationalisation du marché.
Donc un Français mangeait 140 kg de pommes de terre en 1934 et il n'en mangeait plus que 65 kg en 2007. Un Biélorusse lui mangeait 180 kg. Et donc le développement de cette nourriture, c'est aussi en Afrique d'une part, mais au Moyen-Orient et en Asie. C'est au Pakistan par exemple. Mm-hmm. On constatait également... une baisse des prix.
Qui s'expliquait, à votre avis, comment ?
Bien la concurrence, en particulier la concurrence hollandaise qui n'a cessé de se développer et d'être particulièrement efficace.
Le plant de pommes de terre s'exporte donc de plus en plus et de plus en plus loin. Comme toutes les cultures d'exportation, elle est très sensible à la concurrence. Ici, celle des Hollandais va jouer un rôle important. La concurrence se traduit aussi par une recherche de performance des variétés commercialisées. La sélection génétique remplace progressivement la sélection sur pied, sur laquelle était basée l'économie locale de la culture du plant. Les traitements phytosanitaires se généralisent. On pourrait dire que le Finistère perd progressivement l'avantage comparatif dont il disposait, du fait de l'expertise acquise par ses paysans, ses techniciens, ses négociants, mais aussi de son climat favorable. Cultiver la pomme de terre, ce sera désormais faire face aux crises de surproduction et à des revenus en dents de scie.
Journal de 20h de France 2, printemps 1993.
La ville de Châteaulin dans le Finistère, envahie par la pomme de terre. Des agriculteurs ont déversé 400 tonnes de patates dans les rues et devant la permanence de deux candidats, socialistes et UDF, c'est énorme.
Bon, actuellement, je n'ai vendu que 17 tonnes de plants qui sont partis avec mon collecteur. Et depuis, j'ai 230 tonnes qui vont venir sur les rues. Moi, au niveau de mon exploitation, ça me fait 150 000 francs de perdu. On n'est pas là pour casser les affaires, mais au moins qu'on nous donne quelque chose pour vivre. C'est tout. Moi, pour vous dire, heureusement, ma femme travaille à l'extérieur, parce que sinon mes enfants n'auraient pas à manger, ils mangeraient des pommes de terre du matin au soir.
Une nouvelle fois, il demande 55 millions de francs pour couvrir la moitié des pertes liées à la surproduction. Les raisons de cette surproduction sont liées à des rendements exceptionnels, mais aussi à la perte du marché irakien, des exportations qui n'ont pas été compensées.
Nous avons demandé une aide dès le mois d'octobre au pouvoir public pour pouvoir exporter sur les pays de l'Est, mais cette aide n'est jamais venue.
C'est la période, disons, des années 60-70, où il y a véritablement une bascule qui est liée aussi à la diminution de la main-d'œuvre dans les campagnes, puisque pendant longtemps, les paysans ont utilisé une main-d'œuvre, sinon gratuite, tout au moins faiblement payée, composée de retraités, de femmes, voire d'enfants en vacances. Puisque la récolte des pommes de terre se faisait juste avant le fin août, avant que les enfants ne reprennent l'école. Et ils avaient donc une gratification qui leur permettait d'aller sur les manèges à la fête de Châteaulin qui avait lieu donc au tout début septembre.
Bon, on va peut-être si tu veux. Aller voir le lieu de,
ouais. le lieu tri, de torture.
De torture, le tri de la patate dans le hangar. Allez, let's go.
Bernard Carouédan, éleveur à Couinec.
Tu veux aller par là, ouais. Donc ces gens-là, bah, comme je vous disais tout à l'heure, dans le bureau, ils étaient nourris, quoi.
C'était nourris. Nourris. Ouais.
Certains à midi, puisqu'ils étaient là le matin, ceux qu'on allait chercher. Et puis les autres, voilà. Moi, bien. J'avais surtout envie de me manger du pain noir frais, parce que j'aime bien ça, avec beaucoup de beurre dessus. Et je ne devais pas, je pouvais pas, parce qu'il fallait que je le laisse pour Tonton Jacques, le fameux gendarme, le fameux Fougas.
Qui aimait bien le pain noir et le beurre.
Voilà, il faisait ce petit caprice-là, donc il fallait surtout que ne pas le contrarier.
Ouais. Voilà. Ouais, donc ils étaient rétribués, finalement, par cet échange en nature.
Ouais. Puis ces faveurs qu'on leur faisait, quoi, parce que peut-être qu'on arrivait à placer dans la conversation que... Le petit n'avait pas le droit de manger le pain qu'on le gardait pour eux, quoi.
Et je pense qu'à partir de là, après, la main-d'œuvre aussi a disparu. Ouais, les bénévoles finissaient au cimetière les uns après les autres.
Ils n'ont pas été renouvelés.
Il avait beau être outillé, mécanisé, parce qu'on avait quand même du matériel. On avait une arracheuse chargeuse, on avait...
La ferme d'Armand Carouédan est l'une des rares dans le Finistère à avoir conservé sa spécialisation dans la pomme de terre jusqu'aux années 80. La plupart des autres exploitations agricoles s'orientent dès la fin des années 60 vers l'intensification de l'élevage, en s'appuyant sur une coopération agricole en plein développement, sur des facilités de crédit et sur la recherche publique. L'élevage intensif offre en effet des opportunités nouvelles dans un contexte où le foncier se fait rare. L'enjeu est de limiter l'exode rural, d'accroître la production alimentaire, et de permettre à une région excentrée de disposer d'une industrie locale. Et comme une génération d'agriculteurs modernistes chasse l'autre, l'élevage va chasser la pomme de terre. Mais toutes les exploitations ne vont pas suivre la même trajectoire de transition. Nous voici donc de retour à la ferme de Kerléau à Castes, lieu précurseur et prospère de la production de plants, sous l'impulsion du grand-père Hervé Marchadour. Celle-ci se spécialise progressivement en production porcine lorsque le grand-père disparaît.
Quelque part, on pourrait dire que votre grand-père et votre père étaient très différents de caractère, mais ils avaient aussi des fonctions très séparées en termes de gestion de la ferme. Ils n'avaient pas les mêmes compétences.
Non, mais je pense que ma mère a été le lien. Donc elle a fait comprendre tout de suite à mon père qu'il n'était pas question qu'il fasse n'importe quoi. Donc mon père devait également être à la hauteur, même physique, des ouvriers qui étaient les mieux payés du coin, mais qui étaient aussi les plus durs. Et mon père a été sauvé par la coopération. Il a été sauvé, la ferme déjà était solide, prospère, il n'a fait que suivre en attendant que se développe au niveau de Châteaulin la coopérative de porc, voilà. Et il était très moderne, il était bien plus malin que moi, bien plus fin, il était plein de bon sens et il a bien compris. Il trouvait des combines et donc plus ça devenait moderne, mieux c'était. Donc il a très bien correspondu aux 30 glorieuses.
Il a continué, votre père, à cultiver la pomme de terre de sélection.
Oui, mais pas longtemps.
Alors voilà, jusqu'à...
Ah, voilà, il faudrait que j'interroge mon oncle.
Vous diriez à peu près quoi
65.
C'est-à-dire, vraiment, il y a un moment assez brutal où il passe de la pomme de terre au porc.
Mais ça ne rapporte plus. Hein.
Et en effet, dès 1970, la pomme de terre de sélection quitte le trio de tête des productions lucratives, par exemple à Saint-Ségal, où elle est supplantée par le porc, par la volaille avec le développement à Châteaulin du groupe Doux et par les bovins.
Ceux qui ont persévéré dans le plan de pommes de terre, comme Armand Carouédan, bénéficieront encore de quelques belles années. Écoutons son fils Bernard raconter l'année 1976, une année exceptionnelle où le plan valait de l'or.
Il y a un point d'orgue dans la patate, c'est la sécheresse de 76, en tout cas ici, parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais les rendements n'ont pas été affectés. Et le prix ayant été multiplié par 4, je crois, entre 75 et 76, mes parents ont fait fortune, quoi. Mais vraiment fortune, quoi. Et à l'époque, quand on faisait fortune, on le montrait. C'est-à-dire qu'on achetait plein de choses.
C'est-à-dire
on achetait plein de choses cash, quoi.
Voiture ?
Voiture, tracteur, remorque, je me souviens. Et puis l'extension de la maison qui a été faite aussi en 76, 77, quoi. Et ici, je me souviens de voir, on en a parlé, hein, des gens se battre, quoi, pour avoir le dernier kilo de plants, quoi. Oui. C'était les maraîchers, des maraîchers qui eux-mêmes étaient en concurrence.
Et, ils étaient prêts à se battre pour...
ils se battent. J'ai vu des gens se battre.
Se battre dans la cour,
là. Se foutre sur la tronche, ouais. Ouais. Complètement. Ouais. Bon, après, généralement, ça s'arrangeait autour d'une bouteille de Grappe-Fleurie, mais...
Ah ouais, mais bon.
Que j'allais chercher dans la maison.
Il hein. Fallait aller vite.
Avant que ça dégénère trop. Et ouais, je pense que ça a été dur, hein, pour lui d'arrêter la pomme de terre. Hein. Ouais. Et puis ça correspond à ces années fastes, quoi. Ces années où il était en pleine forme, il avait 35-40 ans, tout lui souriait, c'était la ferme de référence ici. C'est peut-être dur ce que je veux dire, mais je pense que ça lui a coûté un peu sa carrière, quoi. Je pense qu'il aurait, il se serait pas obstiné sur la pomme de terre au début des années 80, quand le vent commençait à tourner. Il aurait par exemple choisi d'investir lourdement dans la production de lait, et ben, juste avant les quotas laitiers, il aurait eu une référence laitière bien supérieure, en 84, au moment où les quotas sont tombés, quoi. C'est un peu retrouvé pris au piège, ouais, au milieu des années 80, comme je te disais. La patate, il aurait fallu qu'il s'agrandisse, enfin qu'il se mécanise encore plus. Et donc la ferme va vivoter pendant 10 ans comme ça, et puis commencer à s'éteindre jusqu'à ce que moi je décide de, ouais, de souffler sur la dernière braise, et ouais. puis voilà, et puis c'est reparti. Et puis,
on s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à un demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Moi je me rappelle de la première grande porcherie qu'on fait en 68, et après ça n'a jamais cessé. Les cultures, on les a plutôt délaissées. Bon, on a eu des vaches jusqu'aux années 80... Je dirais 85, arrêt des vaches. Et mais là, on a construit une énorme maternité, qu'on va très mal maîtriser d'ailleurs. Au début, ça va être très... Ça a été très compliqué. Et parce qu'on était absolument pas fait pour un travail aussi féroce. Pourtant, j'avais fait de bons stages, mais bon. Et voilà.
Vous écoutiez C'était la patate, épisode 3, la transition. Une émission réalisée par Alix Levin et Hervé Skividan, avec aujourd'hui Pierre Graal, Bernard Kerouédan et Hervé Lelgouache. Archivina, Le Monde Rural, première partie, Le Progrès, un publi-reportage de l'INRA. Un extrait du journal télévisé de France 2 du 15 mars 1993. Musique, Salut les amoureux, version originale de Joe Dassin et reprise par Miossec. Prochain et dernier épisode, Les lendemains qui plantent.
Par les champs et par les grèves, une série documentaire produite par les chercheurs du projet Paroles et chemins de l'agriculture littorale et par Radio Évasion, avec le concours de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne et le soutien financier de la Fondation de France, de la Région Bretagne et de l'Institut national de la recherche agronomique. À retrouver sur parchemin.bzh, radioévasion.net et plumefm.net.